heureux d'être réunis dans la communion fraternelle, dans la présence du Seigneur et autour de la Sainte Bible, la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire un texte et ensemble méditer sur ce texte ou la pensée qui s'en dégage. Nous allons prendre un verset que nous connaissons tous bien, si je vous dis Jean 3,16. Un verset qui est souvent cité en évangélisation, mais pour Dieu, il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas d'édification, il y a la parole de Dieu. Et il est bon de se pencher sur les textes bibliques, même parfois, je dirais, les plus connus, et de nous y arrêter quelques instants. Donc, qu'est-il écrit dans ce verset de Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tout ce que nous venons de lire ici et qui sont des paroles de Jésus sont des paroles encourageantes. Et elles nous prouvent une chose, c'est que le Père Céleste a envoyé son Fils sur la terre pour sauver l'humanité et plus exactement ceux qui croiraient en sa parole. Car c'est ce que nous avons lu ensemble. Hein. Je me permets de le relire et je vais vous relire ce verset dans Parole vivante qui dit ceci. « Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ou croient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Alléluia. » Ce que je remarque dans ces deux explications, on va dire, ces deux traductions, la pensée est la même. Et la pensée, c'est l'amour. Vous l'avez remarqué ? Dieu a tant aimé. Nous sommes heureux de savoir, depuis longtemps, j'espère, depuis que nous avons entendu l'Évangile, heureux de savoir que nous avons été aimés de Dieu. Il nous a aimés avant que nous fussions nés. Il nous a aimés jusqu'à ce que nous entendions sa parole. Et il nous aime aujourd'hui. Alléluia. Il nous aimera demain parce que l'amour de Dieu est un amour éternel, ce qui veut dire que nous goûterons son amour également dans l'éternité. Mais au regard de la parole de Dieu, et c'est un peu sur cela que je m'arrêterai ce matin, cela ne sera, je crois, qu'un seul rappel. Je voudrais simplement que nous amenions cette réflexion de l'amour, parce que je crois que l'amour, c'est quelque chose de très précis dans la parole de Dieu. Je suis convaincu que ce matin, nous tous qui sommes réunis dans ce lieu, nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Mais la question que je poserai, elle est simple, je dirais, est-ce que nous aimons vraiment Dieu ? Alors, peut-être quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi, frère, vous posez cette question ? La réponse, elle est biblique et nous allons essayer de la voir ensemble. C'est que si je dis « j'aime Dieu », je dois aimer toute sa parole, sous-entendu mon prochain. Mais je dois aimer toute sa parole. Je ne peux pas mettre un verset biblique de côté parce qu'il ne m'intéresse pas ou parce que je ne veux pas observer ce côté biblique que le Seigneur m'enseigne. Mais je ne peux pas rejeter la parole de Dieu parce que si je rejette la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible, Dieu me rejettera aussi. Ce n'est pas le fait de croire que Dieu a donné son Fils et que Jésus est mort pour moi à la croix, excusez ce que je vais dire, mais c'est la vérité, que je serai obligatoirement sauvé. Le salut est donné dans la foi. Je crois, je reçois. Je crois que Jésus est mon sauveur. Je passe par les eaux baptême conformément à l'évangile. Je m'engage avec lui, mais je m'engage à le suivre et à lui obéir. Donc, si je n'obéis pas à la parole de Dieu, si je n'aime pas la parole de Dieu, si je ne l'observe pas tel qu'il me l'enseigne, je passerai à côté du salut. La Bible dit, si ma mémoire ne me trahit pas, si nous désobéissons à un de ses commandements, nous désobéissons à tous. Or, quand je lis la parole de Dieu, je m'aperçois que nous sommes les uns et les autres invités, en tant qu'enfants de Dieu, à aimer Dieu le Père, à aimer le Fils, à aimer la vie dans le Saint-Esprit, et à aimer toutes, on va dire les personnes, mais tous les commandements de la parole de Dieu. L'amour, c'est quelque chose de primordial dans la parole du Seigneur. Écoutez ce que dit le Seigneur Jésus dans Jean au chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau, et je pense que vous le connaissez tous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » C'est déjà un verset important. Et on s'aperçoit que quand on lit les paroles de Jésus sur l'action de l'amour qui doit être pratiquée, le Seigneur Jésus va citer sa propre pensée et ce qu'il est venu accomplir. Et il dit à ses disciples ceci dans Jean au chapitre 15, versets 13 et 14. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie ou sa vie pour vos amis. » Et Jésus ajoute, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et je me permets de dire qu'à la réflexion, devant le Seigneur, et il vient automatiquement cette pensée. Est-ce que je suis un ami du Seigneur? Je sais que Jésus est mon ami. Il a dit à ses disciples, mais il me le dit, il vous le dit ce matin. Je suis votre ami parce que je donne ma vie pour vous, et il l'a fait. Sa croix, la mort sur la croix, c'est un accomplissement d'un acte d'amour certain. Et il l'a fait. Mais derrière, il ajoute, vous êtes mes amis. Si je fais ce qu'il me commande. Ce qui sous-entend, Seigneur, je suis et je veux être ton ami, et je ne désire qu'une chose, c'est obéir à tous tes commandements, à toute ta parole. Et le premier des commandements, c'est aimer Dieu. Je le cite, mais je pense que vous le connaissez par cœur, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son être. C'est plusieurs tout qui ne font qu'un tout. J'aime Dieu de tout mon cœur, point barre. Et je fais, parce que je l'aime, ce qu'il me demande. Et Jésus dira, c'est le premier de tous les commandements. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Et il ajoutera, et le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous les connaissons par cœur. Mais je voudrais vous dire ce matin simplement ce que vous savez déjà, c'est que dans ces deux commandements, il y a tout l'enseignement de la parole de Dieu. Je dois aimer Dieu et je dois aimer mon prochain. Et tout dans la parole de Dieu cadre autour de ces deux versets. Toute la vie du chrétien tourne autour de ces deux versets. Je ne peux pas les dissocier, je dois les saisir je dois les vivre, je dois les aimer et les appliquer. Alléluia. Et là encore, cela nous fait réfléchir. Enfin, du moins, je pense, en tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir. Est-ce que j'aime Dieu comme il doit être aimé, puisque je dois obéir à tous ses commandements? Et vous savez comme moi qu'il est écrit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ne dites pas tous amen. Ils sont pénibles pour ceux qui ne veulent pas les observer, pour ceux qui ne veulent pas s'y soumettre, pour ceux qui ne veulent pas vivre cette parole divine qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. La désobéissance ne nous ouvre pas les portes de la vie éternelle, elle nous les ferme. Mais l'obéissance nous ouvre la porte de la vie éternelle. Être obéissant jusqu'à la mort, Jésus de la croix, et pour nous jusqu'à la fin de notre vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de la vie. Alléluia. C'est une promesse, mais elle ne peut s'accomplir qu'à partir du moment où j'aime vraiment Dieu, où j'aime vraiment sa parole, où je vis de tout mon cœur sa parole. Et à partir du moment où je vis de sa parole, j'aimerai tous ceux qui m'entourent. Amen. Parce que quelque part, l'amour qui ne doit souligner que l'affection éternelle, parce qu'aujourd'hui le mot amour est tout à fait galvaudé, le mot amour a perdu toute sa sensation, mais la véritable amour, c'est l'affection fraternelle que l'on porte à tous ceux qui nous entourent, à la parole de Dieu, à Dieu lui-même. Alléluia. Je crois que c'est très important de se rappeler que le Seigneur nous appelle à l'aimer et à nous aimer les uns et les autres. Je voudrais tout simplement, et n'en prenez pas ombrage, vous dire qu'il est très facile de dire à quelqu'un « Je t'aime, je vous aime » sans même pas le penser. Ouais. Oui, oui. Il y a des gens comme ça. Par devant, vous avez la façade, mais ce qui est à l'intérieur, vous ne savez pas ce qu'il y a. Par contre, ça, vous pouvez le faire entre les humains, mais vous ne pouvez pas le faire avec Dieu. Si je dis « je t'aime Dieu », il faut que ce soit vrai. Vous l'avez entendu ce matin, on ne se moque pas de Dieu ni de sa parole. Si je dis « j'aime Dieu », j'accepte tout ce qu'il m'enseigne. À la limite, j'accepte même ses corrections. Parce que c'est nécessaire pour mon salut. J'accepte même les épreuves, parce que c'est lui qui les permet. Et je dis amen. Rien, dira l'apôtre Paul, ne viendra me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Donc quand je dis à Dieu je l'aime, je ne le dis pas avec mon intelligence, je ne le dis pas avec ma bouche, je le dis avec mon cœur, de tout ton cœur. De même, quand je dis à un frère, à une sœur, ou un ami qui passe parmi nous, je t'aime, c'est pas avec la bouche, hein, c'est avec le cœur. Vous savez que les plus grands comédiens ne se trouvent pas à la Comédie française. Parce que tout être humain est un super comédien. La seule différence qu'il y a entre ceux qui sont sur les estrades théâtrales, c'est la paye. Il n'y a rien de plus trompeur que l'être humain. Il vous présente une façade, mais de l'autre côté, il pense tout à fait le contraire. Ça, c'est bon pour les inconvertis, excusez-moi. C'est bon pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais pour celui qui se dit enfant de Dieu, et la Bible nous dit qu'en croyant en Jésus-Christ, en passant par les eaux du baptême, nous devenons enfants de Dieu, héritiers de la vie éternelle, alors je dois me comporter en véritable enfant de Dieu. Aimer, c'est le seul mot, le seul verbe qui doit régner dans le cœur des chrétiens, c'est aimer comme il m'a aimé. Aimer comme il m'a aimé veut dire je te donne ma vie, je sacrifie ma vie, je te donne entièrement ce qui m'appartient, je me donne à toi et toi tu vis en moi parce que je t'aime. Alléluia. Vous désirez une vie bénie, cela passe comme ce, par ce chemin-là. Vous désirez une église bénie. Moi aussi, cela passe par ce chemin-là, le chemin de l'amour. Sans amour, il n'y aurait pas de salut. Mais parce qu'il nous a aimés, il a donné ce qu'il y a de meilleur. L'amour, le véritable amour, la véritable affection, ce n'est pas de dire « je t'aime », c'est de le prouver que tu l'aimes. Le prouver. Et ça, le prouver, c'est plus dur que de le dire. Il est écrit, et je vais vous le lire, quelques versets encore. 1 Jean chapitre 3, verset 18, premier épître de Jean, parole de vie. « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles, avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. » Les actes confirment l'amour. Moins d'amour par la parole, plus d'amour par les actes. Dans le Romains chapitre 12, versets 9 et 10, nous parle, je crois, véritablement de l'amour, affection fraternelle, qui doivent être sans hypocrisie, sans duplicité, mais comme l'on dit, vrai. Ainsi est-il écrit dans Romains chapitre 12, versets chapitre 9 et 17, à 10, pardon, la Bible du Semeur. L'amour ne sait pas mentir, sans hypocrisie. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. C'est bizarre, je n'entends pas d'amen. Faire passer les autres avant moi, mais qu'est-ce qu'il dit le pasteur? C'est moi le meilleur. La Bible nous dit de servir dans l'amour et dans l'humilité. L'humilité. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ouais, mais c'est vrai, c'est bien ce que la Bible dit, mais comprenez-moi, frère, mon bagage intellectuel, il est plus grand que celui-ci ou celle-là. Ben, si vous mettez vos bagages intellectuels avant la parole de Dieu, vous avez tout faux. Hein. J'ai tout faux. Le peuple de Dieu, ce matin, réuni ici, est composé, comme ailleurs, est composé de personnes différentes, ayant des capacités différentes, venant de régions différentes, venant de pays différents. Aujourd'hui, la Bible nous dit que de tous ces gens que nous sommes et que nous composons aujourd'hui en groupe, mais c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple que Dieu s'est acquis. Et nous ne sommes pas plus grands les uns que les autres. Et les capacités que nous avons, nous devons les mettre au service des autres, au service de l'Église, au service de Dieu, parce qu'on les aime, parce qu'on aime Dieu. Et que Dieu nous dit de vivre dans un véritable amour, les uns pour les autres. Pour lui-même d'abord. Est-ce que nous sommes prêts, si c'était le cas, si c'était demandé de la part de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à monter à l'échafaud pour le nom de Jésus? Je dirais, et pardonnez-moi, c'est facile de suivre le Seigneur apparemment, parce que rien n'est facile. On peut dire facile de suivre quand tout va bien. Mais lorsque l'opposition va arriver, comment allons-nous réagir? Quel est notre amour pour Dieu? Est-ce que nous allons lui dire, Seigneur, là, même dans cette situation, je veux mourir avec toi et pour toi? Non pas pour être cité comme un héros, mais tout simplement parce que je ne veux pas te renier. Regardez dans la Bible. Pierre, crucifié la tête en bas. Jacques, décapité dans sa prison. Paul, décapité sur la route de Rome. Étienne, lapidé. J'arrête là. Puisqu'après, dans Hébreux, chapitre 11, vous avez le tableau d'honneur des enfants de Dieu, des chrétiens qui sont restés fidèles jusqu'à la mort. Les uns ont été sciés, les autres écartelés. Écartelés par les chevaux, ils sont morts d'atroces souffrances. Mais en aucun cas, ils n'ont renié le Seigneur. Ils n'ont renié leur maître. Ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que l'amour pour Dieu était vrai. Et il n'est dit dans l'histoire de l'Église qu'il est arrivé que sur les gradins, des gens regardant le comportement des chrétiens qui allaient au sacrifice en chantant la gloire de l'Éternel se convertissaient sur les gradins. Parce qu'ils aimaient Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu de cette manière? Est-ce que nous aimons Dieu à sacrifier ce à quoi nous tenons le plus? Aimer Dieu, ce ne sont pas des mots vains, ce sont des mots qui nous amènent à une réalité divine et qui nous fait voir toute la gloire de Dieu. Aimer, ce n'est pas combler un manque. Aimer, c'est partager un tout. Alléluia. Partager un tout. Vous connaissez, mes frères et sœurs, ce passage biblique où un homme de la loi, docteur de la loi divine, venu voir le Seigneur Jésus avec cette question qui était là sur ses lèvres et il la posa au Seigneur. Et il lui dit, et je sais que vous connaissez tous ce texte qui dit, il lui dira, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Vous vous rappelez ce texte? Jésus a entendu cette question. Et il va lui répondre par une question. Puisqu'il était docteur de la loi, il devait connaître la loi. Alors Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu ?» En fait, « Qu'est-ce qui est écrit dans ma parole? Qui lis-tu dans ma parole ?» Eh bien, la réponse de cet homme est claire. Il dira, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Laissez-moi vous dire que le Seigneur va répondre, mais il ne va pas lui faire une grande théorie. Il ne va pas lui mettre des points les uns à la suite de l'autre. Il va lui dire une simple phrase. Et il va lui dire, « Tu as bien répondu. » Là, le gars, il a dû être satisfait. J'ai eu tout bon. Tout bon. Il m'a dit que j'ai bien répondu. Oui, mais le Seigneur, il n'a pas arrêté là la phrase. Il lui a dit, fais cela et tu vivras. Comprenez bien ce que je vous expliquais jusqu'à maintenant par ces versets. Si je n'aime pas Dieu, si je n'aime pas sa parole, si je n'applique pas sa parole, alors, il n'y a pas d'espérance éternelle. Puisqu'il est écrit, fais cela et tu vivras. Un autre texte dira, fais de même. De même. Pas le tout de dire, c'est le vivre. Dans la parole de Dieu, il est parlé de connaissance. Alors je le cite ainsi et je ne rentre pas dans des explications. Mais il est dit, la connaissance enfle, mais l'esprit vivifie. Laissez-vous conduire par l'esprit et vous aimerez sans problème. Que la chair soit soumise à l'esprit et vous agirez sans problème pour la gloire de Dieu. Car tout chrétien, tout enfant de Dieu, lorsqu'il suit le Seigneur, toute sa vie doit glorifier Dieu dans sa vie. Tout ce qu'il fait doit glorifier Dieu dans sa vie. la parole de Dieu nous enseigne. Bien sûr, quelqu'un, et nous l'avons entendu ce matin, au travers de la lecture du texte, quelqu'un pourrait dire, oui, mais nous sommes sauvés par grâce. Et c'est vrai, c'est la grâce qui nous sauve. Mais je n'ai pas affaire à un Dieu qui se contredit. La grâce nous sauve. Mais je voudrais citer cette parole du Seigneur Jésus. Lorsqu'il dira à ceux qui lui parlaient sur la grâce, il dira qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais qu'il est venu accomplir la loi. Et quand on analyse ce texte, on s'aperçoit qu'il dit « Je suis venu pour donner ma vie au calvaire » et ça, c'est l'accomplissement de la loi, puisque j'ai été annoncé dans l'Ancien Testament « Je suis venu, j'ai donné ma vie, j'ai dit « Je viens, Seigneur, pour donner ma vie, j'accomplis ta volonté. » Il lui dira « Je suis venu pour accomplir ta volonté. » Il accomplit la loi. Mais il a dit « Je n'abolis pas la loi dans le don de ma vie. » La loi, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, mais ne faisons pas de cette grâce. Ne la prenons pas pour nous excuser dans nos égards, dans nos erreurs, dans notre manque d'obéissance à la parole de Dieu. Soyons de ceux qui obéissent de tout leur cœur. Et il y a un verset qui m'a souvent conduit et dirigé dans ma vie de chrétien et de serviteur de Dieu. Ne faites pas aux autres ce que ne vous voulez. C'est Jésus qui le dit. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ouais, ça fait sourire, ça. Hein? Vous savez, un petit exemple personnel, mais très simple. Ça va peut-être vous amener à sourire, mais j'ai habité un jour dans un bâtiment où il y avait mon garage en dessous le bâtiment, perso, et puis situé auprès d'une avenue qui était là. Donc j'avais le droit de passage sur le trottoir pour entrer dans mon garage, puisqu'il était en recul. Mais tous les matins, ou quand je voulais descendre faire ce que je devais faire, il y avait toujours des voitures arrêtées. Et vous allez trouver que j'étais simple. Hein. Et je priais le Seigneur, je dis, c'est pas possible, parce que j'étais toujours en train, et surtout quand il y avait des visites urgentes, j'avais des voitures qui me bloquaient. Seigneur, mais comment puis-je faire pour résoudre ce problème? J'ai fait appel au propriétaire, j'ai mis tout ce que je pouvais en action, mais ça ne faisait rien. Et puis, un jour j'ai prié, le Seigneur il m'a cité ce verset. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai écrit sur une belle plaque blanche et je l'ai collé sur la porte d'entrée. Ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas. À partir de ce jour, je n'ai plus de voiture. Ah oui, oui. Des fois, le Seigneur a des réponses toutes simples. Oui, oui. À quoi ça sert de s'énerver? À quoi ça sert de se mettre en colère? Hein? D'ailleurs, comme je disais ce matin à quelqu'un, moi je ne me mets pas en colère, je change de couleur seulement. Hey. Maintenant, je dirais, comme j'ai dit aussi, ne prenons pas l'exemple du Seigneur où parfois dans la Bible il est écrit que Dieu se mit en colère. Mais ce n'est pas parce que lui s'est mis en colère qu'il nous dit de nous mettre en colère. Non, moi j'ai lu qu'il fallait être doué de patience. Mais par contre, comme Dieu nous connaît parfaitement, hein, il nous connaît bien Dieu, alors il sait que de temps en temps, j'espère de temps en temps, on peut être mal luné, comme on dit. Alors on prend la mouche, on s'énerve. Mais il y a quand même un verset là. Il y a des versets qu'on dirait, ah pourquoi? Eh bien, si tu te mets en colère, ne pêche pas déjà par ce que tu vas dire, par les mots que tu vas employer. Alors, et puis, avant de te coucher, réconcilie-toi. Ne te couche pas sur ta colère. Ne te couche pas sur ta colère. Ne te couche pas avant que le soleil ne se couche avec ta colère. Hein? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de vos vies. Mais quand on se couche à colère à côté de son épouse ou de son mari, s'il veut se réconcilier, mais non, tu m'en as trop fait. Mais non. Aimez-vous les uns les autres. Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, Puis-je me permettre très fraternellement, avec beaucoup d'amour, de vous dire que aimez-vous les uns les autres fraternellement, ça comprend votre mari et votre femme. Il y en a qui sont. Je me suis disputé hier soir et voilà ce que je prends ce matin. Moi, je ne vous dis rien. Je ne fais que citer la parole de Dieu. Ou on se l'applique ou on ne se l'applique pas. Ou on la vit ou on ne la vit pas. Mais qu'en sera-t-il de nous dans notre avenir? Car il y a un but à atteindre. Je vais arriver à la fin, je viens de m'apercevoir que le temps passe. Alors, comme d'habitude, je ne pourrai pas tout vous dire. Mais qu'est-ce qu'aimer véritablement? Qu'est-ce qu'aimer? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Parole vivante. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. L'amour évite de scandaliser. L'amour évite de blesser. Pas avec une arme. Mais par la langue. Par la langue. Il est bien dommage que des fois, pas ici, non, parce que en tout cas, je veux rester bien avec vous. Je suis bien là. Mais il est vraiment dommage que dans certains lieux, quand il y a un petit différend entre frères et sœurs, on ne se dise plus bonjour. Et là, je me dis, mais comment font-ils à être réunis dans l'église et à participer au pain et au vin alors qu'ils sont en train de se chamailler sans se pardonner? C'est une abomination. Et vous voulez que le Seigneur vous bénisse? Mettez d'abord en pratique la parole de Dieu et pardonnez-vous. Et je précise, il est écrit réciproquement. Amen. Amen. Il est écrit ceci, toujours, vous connaissez ce texte de Corinthiens 13. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Amen. Vous savez, des fois, il y a des choses étonnantes hein, qui arrivent même parmi les enfants de Dieu. Ce n'est pas honorable ce que je vais dire. Et Dieu, je pense, a dû en son temps résoudre la solution. Mais quand, par exemple, deux frères ont eu des mots, ils étaient arrivés à un point que lorsqu'un marchait sur le trottoir et que l'autre arrivait à sa rencontre, pour éviter de lui dire bonjour, il traversait la rue pour aller de l'autre côté. Eh oh! C'est ça, aimer! Après, on dit, Seigneur, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Mais avant de dire pourquoi au Seigneur, le Seigneur, lui, va vous dire pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu ne vas pas te réconcilier? Pourquoi tu ne vas pas exercer l'amour fraternel? C'est ce que je t'ai appris, alors lève-toi et va te réconcilier. C'est ce qui est écrit. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Mais réconcilie-toi pour toujours. Parce que là-haut, dans le ciel, il faudra être en accord avec sa parole pour y rentrer. Si je n'ai pas pardonné ici-bas, vous croyez que je vais rentrer? Vous croyez que là-haut, le Seigneur me dit, t'as eu raison. Non, mais tu vois la porte là-bas? Ben, tu y retournes. Eh oui. Ne prenez pas, on l'a entendu ce matin, ne prenez pas la parole de Dieu à la légère. Eh oui. On n'est pas dans un club associatif, hein. On est dans la maison de Dieu. Et on doit respecter ce que le Seigneur nous enseigne. Amen. Et vous connaissez tout ce verset, verset 7 toujours du texte, l'amour couvre tout. Il souffre. Tiens, même si j'aime, je dois souffrir. L'amour souffre parce qu'on aime parfois. Et on doit endurer. Et on doit pardonner. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre. Et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir. Mais c'est lourd. Mais le Seigneur, il dit, je porte avec toi. Et même mieux, quand tu es trop fatigué, c'est moi qui porte. Alléluia. Vous connaissez tous, je prends encore 5 minutes. Vous connaissez tous peut-être ce témoignage qui avait été rendu où cet homme chrétien un jour a eu, on va dire, une vision dans son sommeil et il a vu sur la plage deux marques de pas qui se faisaient et qui progressaient. Et au bout d'un moment, il a vu qu'il n'avait plus qu'une de marque de pas et puis ça continuait. Et puis après, il a eu encore deux marques de pas. Alors il ne comprenait pas et le Seigneur lui a donné l'explication. Il a dit, quand tout allait bien, eh bien, on marchait côte à côte ensemble, on avançait, on progressait. Et puis, il est arrivé un temps où tu as été fatigué. Tu as été fatigué, tu n'en pouvais plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai pris sur mes épaules, je t'ai pris, et puis j'ai progressé avec toi. Toi, tu te reposais et moi, je marchais. Et quand tout est allé bien, alors je t'ai remis et nous avons progressé ensemble. Alléluia. Quelle belle image. Alléluia. Jésus a dit, apportez-moi vos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que je vais vous dire, il m'arrive moi aussi d'être fatigué comme vous, mais je repose sur la grâce de Dieu. Et dans ces moments-là, qu'il est bon d'être fortifié et vivifié. Et d'entendre le Seigneur vous dire au creux de votre oreille ou dans votre cœur, ne crains pas, parce que je suis avec toi. Alléluia. Qu'il est bon de vivre avec le Seigneur. Alors, en terminant, je dirais simplement, mais je pense que vous l'avez, est-ce que nous aimons de l'amour du Seigneur? Est-ce que nous aimons comme il nous a aimés? Est-ce que nous aimons sa parole? Est-ce que nous aimons? Je terminerai en vous disant que dans les textes que nous avons lus, il y avait 3 conseils, mais je ne vous le dis pas, je vous rappelle. Premier conseil, c'est un ordre. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Deuxième conseil, une vérité fondamentale. Si vous faites ce que je vous commande. Et troisième point, c'est se donner pour servir, pour le servir. Pas pour se servir, pour le servir. Et je pense qu'il est bon de souligner servir, c'est-à-dire amener au maître avec amour et par sa grâce d'autres âmes au Seigneur, afin qu'elles demeurent au milieu de vous et qu'elles grandissent dans la foi afin d'être sauvées pour l'éternité. Et je me rappellerai toujours, jusqu'à la fin de ma vie, je me rappellerai toujours ce que Dieu a dit à une église dans laquelle j'ai exercé le ministère. Et le Seigneur avait dit à l'Église par prophétie, « Je vous donnerai des âmes, mais saurez-vous les garder. » Saurez-vous les garder. Et pendant un temps, on a vu la bénédiction de Dieu. On a vu l'Église se remplir, des miracles se faire. Et je bénis Dieu pour ce que j'ai connu, ce temps de réveil. Mais Dieu avait averti. Et l'orgueil s'est placé dans quelques cœurs. Et l'orgueil a détruit ce que Dieu avait fait. Aimons-nous les uns les autres. Aimons Dieu. Et si par sa grâce, Dieu bénit l'Église, glorifions-le lui et pas nous. Ne prenons jamais la place du Saint-Esprit, mais laissons le Saint-Esprit construire l'Église. Avec l'aide des pasteurs qui ont été établis. Et bénissez les pasteurs que vous avez au milieu de vous. Je ne parle pas de moi. Bénissez les pasteurs au milieu de vous. Afin que par les forces qu'ils ont et qu'ils donnent, ils puissent voir avec vous la gloire de Dieu se manifester au milieu de vous. C'est cela la vérité. Aimez. Aimez-vous. Aimez Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que...